trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de l'actualité théâtrale sur Montpellier et région. Et je vais commencer par faire une petite annonce. Il y a des places de théâtre à gagner à la scène nationale de Sète et du bassin de Thaux pour le spectacle Courteline, Amour Noir. Alors Amour Noir est constitué de trois pièces relatives à la vie de couple qui mettent en scène un lâche avec une épouse trop belle, un littérateur minable et mesquin avec une petite femme rouée, un couple haineux qui passe son temps à se déchirer et à déchirer son invité jusqu'à la terrible explosion finale, résolument dévastatrice. Donc Courteline, Amour Noir, il y a quelques places à gagner à la scène nationale de Sète et du bassin de Thaux. Il faut téléphoner au 04 67 74 32 52. 04 67 74 32 52. Voilà, la petite annonce, c'est fait. On va parler tout de suite, je suis avec l'équipe de Vendredi Théâtre. Grazia, bonjour.
Bonjour.
Julie de BSC News, bonjour.
Bonjour.
Et nous recevons pour ce premier plateau Thomas Chagrin au Théâtre des 13 Vents. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Gilbert Desvaux, bonjour.
Bonjour.
Et Adrien Melin.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Thomas Chagrin, c'est un monologue de Villeneuve. J'avoue que Villeneuve, moi, je ne connaissais pas. Est-ce qu'on peut commencer par parler un petit peu de cet auteur pour le présenter? C'est quelqu'un qui a été parrainé, si je ne me trompe, par Édouard Albi.
Oui, c'est quelqu'un, en tout cas Édouard Albi, qui a la dent dure, reconnaît en lui un auteur. Villeneuve, il est jeune, puisqu'il a à peu près mon âge, 46-47 ans. Il est new-yorkais, il écrit exclusivement pour le théâtre, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. En France, il est absolument inconnu, je crois qu'avec Jean-Marie Bessé qui le traduit. Nous sommes les seuls à nous intéresser vraiment à lui, c'est toujours très long d'imposer une écriture, un univers, un auteur nouveau. Il faut du temps. Nous, on y croit. Ça nous paraît être une des voies les plus singulières de la dramaturgie anglo-saxonne d'aujourd'hui. On est à New York, il a son noyau de fidèles, il est joué off-Broadway dans l'équivalent des théâtres subventionnés, ce qui s'appelle les non-profit theaters à New York. Ce texte, Thomas Chagrin, qui est un monologue, qui s'appelle Tom Paine en anglais, c'est le nom du personnage. Jean-Marie l'a découvert il y a une dizaine d'années à New York, dans un petit lieu. Et lui, il a tout de suite eu un coup de cœur énorme pour cette écriture. Il a voulu le traduire et il a commencé le travail d'importation. Il m'a fait lire sa traduction et comme souvent entre nous, on partage les mêmes goûts, les mêmes obsessions et j'ai immédiatement décidé de m'atteler à la tâche. Mais à part, c'est un garçon assez mystérieux. Moi, je l'ai rencontré une fois. Il était venu à Paris quand on avait fait la première production de ce spectacle. C'est un jeune auteur de théâtre qui, petit à petit, fait son trou. Pour le moment, plutôt en Amérique, assez peu en France, mais nous nous y attelons.
C'est tout à votre honneur, parce que moi, c'était une découverte, je ne connaissais pas du tout, et donc quand j'ai vu ce monologue, moi, j'ai découvert une écriture. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à l'écriture des écrivains de la Beat Generation. Est-ce que je me trompe ou est-ce
Non,
que...
je trouve, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que dans l'écriture, les Américains, les Anglais ont une capacité à raconter des histoires, et même, il y a, moi, ce que je n'aime pas beaucoup, ce qu'on appelle les writing schools, ces endroits où on apprend la l'art du scénario, l'art du roman, etc. Et très souvent, on est quasiment plus chez des artisans que chez des artistes, des gens qui ont la patte pour, mais presque technique à mon avis. Et ça donne des pièces qui inondent le marché mondial du théâtre, souvent des pièces portées par des grandes vedettes, un peu interchangeables, un peu comme les films américains qu'on consomme, même de loin. Alors que là, je crois qu'il y a vraiment un univers singulier, une voix singulière et effectivement Thomas Chagrin, moi quand je l'entends, quand je le relis, quand je le retravaille, je tout de suite je pense à Sur la route de Jack Kerouac. Et on parlait de ça, enfin, je ne vais pas failloter avec Julie qui est là, mais je trouve que le papier qui est sorti là de BSC News, qui est un des papiers vraiment qui s'intéresse à vraiment dans, dans bon, il il est très aimable pour le travail d'Adrien et le mien, mais il s'intéresse surtout à l'écriture de Willeno, et je trouve qu'il arrive vraiment très intelligemment à faire le lien, notamment avec Jack Kerouac. Moi, je me suis plongé il n'y a pas très longtemps dans le nouveau, la nouvelle version, là, le nouveau rouleau qu'on a retrouvé, la nouvelle traduction, et en le lisant, j'étais saisi de voir ces espèces d'obsessions, ce langage, cette écriture comme ça, circulaire, avec des retours sur soi, ce passage du coq à l'âne. On est dans cette famille-là.
Oui, Pardon. Et en même temps, c'est une écriture qui demande... il me semble un gros travail, une grande performance pour le comédien, parce qu'au final, moi je l'ai trouvé... C'est pas évident, parce qu'en permanence, il y a cette confrontation avec le spectateur, qui est un personnage à part entière. Donc du coup, c'est un spectateur, comment on répète, comment on s'entraîne. Et puis, on en avait parlé aussi du fait qu'il y a plein de petites réflexions comme ça, dont on a presque l'impression qu'elles sont improvisées. Or, visiblement, tout est dans le texte. Donc, comment ça se travaille, ça, tout ça ?
En fait, il y a...
Bien devant le micro, s'il vous plaît.
C'est une espèce de psychanalyse collective.
Oui.
Enfin, c'est une psychanalyse individuelle, si vous voulez, mais devant plein de psys en même temps.
Oui.
Il va s'adresser à une personne, puis à une autre. En plus, le dispositif en circulaire fait que... comme une piste de cirque qui va aller à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, partir dans tous les sens, tous les points cardinaux. Et en permanence, on est en train de se demander si le spectacle ne va pas s'arrêter. Au bout de 30 secondes, au bout de 10 minutes, tout le temps, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout est imprévisible.
Oui, et c'est ce qui fait le plaisir du spectateur aussi, hein, ce personnage. Et le plaisir, et en même temps, il peut y avoir des réactions très violentes, non ? Dans l'autre sens, des gens qui ne vivent pas bien ce personnage qui, d'un coup...
C'est jamais... Je pense que tout le travail a été là avec Gilbert, et ça a été le fruit de mes réflexions aussi, au fur et à mesure des représentations, c'était de savoir quel... exactement adopté avec les spectateurs pour pas trop... Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre qui crée forcément un malaise quand spectateur s'arrête, l'acteur s'arrête de jouer et de raconter sa petite histoire et de suivre le fil de sa pensée pour aller s'adresser à une personne au premier rang.
Oui.
Lui demander pas grand chose, le temps qu'il fait, lui parler d'un problème.
Oui.
Voilà. Et donc du coup, ça peut créer un malaise. Et tout le travail a été de trouver le ton juste pour ne pas pour pas justement créer des réactions agressives, violentes ou des réactions de malaise.
Mais c'est vrai que moi, ça me faisait penser vraiment au style cut-up, parce qu'il y a des choses qui commencent et qui s'arrêtent, et puis à un moment, il commence à raconter une histoire, puis on s'en fout, puis on passe à autre chose, et puis après, il va s'adresser à un spectateur en particulier, et puis après, il reprend un truc qu'il avait commencé, et puis après, il reprend autre chose, et puis à un moment, il y a le coup avec la tombola, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tombola, et puis après, on arrête, puis on s'en fout, puis de toute façon, voilà.
Et puis c'est écrit aussi, je crois, il y a... ce que dit Adrien, ça démarre presque comme un stand-up comédie. Que les Américains ont, qui est une forme de café-théâtre chez nous, stand-up comédie, comme ça l'acteur est là, parle au public, plutôt pour faire rire, plutôt pour... Et en fait, très vite, ça dérive, et pas du tout. Et en fait, on n'est pas du tout dans un stand-up, même si ça peut avoir cette forme, parce qu'on est dans une écriture très littéraire, avec des improvisations, et l'art d'Adrien, parce que ça, je crois que c'est vraiment l'art de l'acteur, c'est que il n'y a aucune improvisation, il ne rajoute aucun mot. En revanche, vu le dispositif et effectivement le lien et la confrontation qu'il y a avec le spectateur, c'est écrit comme ça. Adrien doit, quand il demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu demandes quand tu dis par exemple, quelles sont vos grandes espérances, c'est ça ?
Oui. Tu veux un extrait du texte ?
Ah ben pourquoi pas ? Allons-y.
Si vous restez une journée à vivre, vous feriez quoi ? Facile à deviner. Vous seriez courageux, sincère et fou. Vous aimeriez les gens. Vous aimeriez la vie avec un nouveau et sauvage abandon. Si vous restez une journée. Et si vous restez 40 ans à vivre, vous feriez quoi ? Eh bien, si vous étiez comme moi, et sans vouloir vous vexer, vous l'êtes sûrement, vous ne feriez rien du tout. C'est triste, non? On se bat nos flancs de cheval mort, plus on redouble de coups, plus on s'acharne et plus c'est mort. D'un autre côté, il y a des boutiques pas mal dans le quartier. J'ai acheté un chandelier sympa aujourd'hui et une chaise. J'ai perdu le chandelier quelque part. Et puis, ça parle. En fait, pour en revenir à l'histoire de ce personnage, c'est quelqu'un qui souffre, qui vient de se faire larguer, qui a un gros problème avec ça, qui n'arrive pas, quand je parlais de psychanalyse collective tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir de ses obsessions. Ouais. Il est dans des affres de souffrance dans lesquelles il n'arrive pas à... Enfin, qu'il n'arrive pas forcément à formuler, à expliquer pourquoi elle est partie.
Je crois qu'il y a le... On parlait de ça hier avec une spectatrice un peu psychanalyste. Il y a ce traumatisme que nous avons lié à l'enfance. On a tous une scène... le drame originel, la scène originelle. Et alors, on essaye de vivre avec nos plaies comme ça, cautérisées, mais finalement on avance et Thomas Chagrin n'y arrive pas. Il ne surmonte pas le passage de l'âge adulte, de l'âge enfant à l'âge adulte. Il ne surmonte pas une scène dramatique de la mort de son petit chien. Il a comme ça des traumatismes liés à l'enfance, des chocs émotionnels qu'il n'arrive pas à surmonter.
Et donc, finalement, il en parle, il commence à en parler avec légèreté, il se laisse embarquer par sa propre souffrance, sa propre perdition, et très vite, il a, je pense, un besoin de dédramatiser, de revenir à des choses plus légères, oui, de déconner avec les spectateurs, ce qui amène ce dont vous parliez tout à l'heure, des choses comme, d'un seul coup, il va s'arrêter au milieu d'une phrase, au milieu d'un grand paragraphe où il se mettait à parler de, justement, cette fille avec qui il a eu une grande histoire d'amour qui est partie, qui a disparu. Il va se mettre à organiser une tombola avec les spectateurs.
Oui. Voilà. Mais moi, il m'a fait penser un peu à... une forme de clown moderne, hein, quand même. Il est dans le déséquilibre permanent et c'est là aussi qu'on rit, parce que finalement, ce qu'il raconte n'est pas drôle. Enfin, de façon générale, non, il a été... Sa copine l'a quitté. Il se rappelle des souvenirs d'enfance, ça, c'est désagréable.
Ça, hein.
Voilà, et en même temps, il fait rire en permanence par justement ce déséquilibre, le fait qu'il nous surprend en permanence. Et du coup, ça, c'est sûr que c'est vraiment pas évident à jouer pour un comédien. Non, moi, je dis bravo.
On n'a aucune indication sur son bagage intellectuel, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas s'il a fait des études, on n'en sait rien, quoi. On ne sait pas quel est son portrait psychologique, on ne le connaît pas, il n'y a pas d'information. Mais manifestement, vu sa dextérité à manier le langage, même s'il n'y a pas de référence culturelle, c'est quelqu'un qui maîtrise le langage. Donc, c'est un inadapté à la vie, un inadapté parce qu'il est, il est malade, il a une névrose. Mais c'est un brillant intellectuel aussi, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se rapproche de Jack Kerouac, de Sur la route, quoi. Ces êtres à côté du jeu social et qui sont pas dans le travail, dans la consommation, etc., dans la production. Et en même temps, c'est une espèce de SDF métaphysique, lointain cousin des clochards célestes, quoi. Voilà, je pense que... Mais Albi n'a pas tort, parce que Albi a écrit des pièces magnifiques. Moi, j'adore ça. J'espère qu'on va... avec Jean-Marie. Jean-Marie Besset a traduit Albi. J'espère que nous montrons des Albi au 13 vents dans les prochaines saisons.
On attend ça avec impatience.
J'espère, si on est toujours là, si tout va bien, ben voilà. Mais dans La Maison Elzo, une des pièces les plus emblématiques d'Edouard Albi, la partie qui s'appelle le Zoo, Zoo Story, le personnage de Jerry qui arrive, qui débarque à Central Park et qui parle, qui prend la parole et qui parle au bourgeois, Peter, je crois, si je ne me mélange pas dans les prénoms, il y a quelque chose... Thomas Chagrin n'est pas loin de ce personnage. Il y a quelque chose qui se rapproche dans l'adresse, dans les angoisses, dans la situation. On est dans une filiation, oui, il y a quelque chose d'assez proche.
Gradia, on ne t'a pas encore entendu. Oui. Tu as vu la pièce avec moi.
Oui, j'ai beaucoup aimé. Donc, effectivement, on est complètement investi par une avalanche de mots et de gestes. Hein, et...
Parle bien devant le micro.
Oui, pardon. Alors, on est interpellé sans arrêt. Donc, comme disait Julie, nous... C'est bon.
Vas-y.
Donc, nous sommes complètement pris dans ce vertige. D'ailleurs, la mise en scène, le décor circulaire, ça fait penser à une sorte de vertige dans lequel, effectivement, on pourrait être pris, hein, et on l'est. Et effectivement, on a une envie profonde, c'est celle de savoir, mais au fond, qui est réellement ce Thomas Chagrin ? Est-ce que chacun de nous pourrait l'être ? Est-ce que le chagrin, c'est quelque chose que chacun de nous connaît ? Donc, c'est une valeur, entre guillemets, universelle. Vous pouvez jouer cette pièce par son espace scénique qui est conçu de façon circulaire, n'importe où, dans un bistrot, dans la rue. Dans le... Et vous l'avez d'ailleurs joué devant des publics complètement différents. Il me semble savoir que vous l'aviez joué aussi à Villeneuve-les-Maglones, en prison, devant des prisonniers. Ouais. Comment ça s'est passé ?
C'était extraordinaire.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que ce texte, à part quelques petits tours de magie, il y a certaines indications dans les didascalies qui indiquent que quelques paragraphes se déroulent par exemple dans le noir, et puis donc le lieu est un théâtre. Il n'y a pas de dispositif scénique particulier. Normalement, nous, on a pris le parti d'en installer un, mais ça pourrait se jouer partout. Ce que disait... Gilbert, ça pourrait se jouer, je pourrais me mettre sur des tréteaux, ou pas d'ailleurs, n'importe où, sur
Place de la Comédie
oui,
ou
absolument,
dans
un... moi je...
Mais dans les rues d'Avignon, on y pense. Mais c'est vrai que...
Oui, Léno, parce que Florent, vous posiez la question sur l'œuvre. Nous, Jean-Marie a traduit cette pièce que nous avons montée à Paris, à Montpellier. On l'a jouée à Limoux dans notre festival. On l'a jouée l'an dernier dans cette version avec Adrien, un peu en décentralisation autour de Montpellier, y compris à Villeneuve-les-Maglones, à la Maison d'Arrêt. Et c'était une expérience incroyable parce que... En parallèle, Jean-Marie a traduit la dernière pièce de Willeno qui s'appelle Améryville, qui est finalement la même pièce, sauf que c'est le portrait d'une petite ville. Donc il y a une trentaine de personnages, avec la bibliothécaire, le policier, etc., etc. Mais les deux personnages principaux, l'un s'appelle John Levitt et l'autre s'appelle le mécanicien, ce sont deux Thomas Chagrin. C'est les mêmes. C'est les mêmes angoisses, les mêmes, voilà. John Levitt étant gentil, disons, et le mécanicien n'est pas méchant, c'est un peu réducteur, mais disons un peu plus marginal, un peu plus à la frontière de la loi, quoi. Mais c'est les mêmes personnages, un peu comme ça. Bon, et on a travaillé depuis l'an dernier avec Jean-Marie Bessé, on a monté un programme Les 13 Vents à la Maison d'Arrêt de Villeneuve-les-Maglones, où on anime un atelier. On a travaillé ce texte, c'était extraordinaire. Et on est venu avec Adrien faire une représentation à Villeneuve-les-Maglones.
Et comment les prisonniers ont-ils réagi ?
Ah ben c'était incroyable. Il y a des phrases qui, d'un seul coup, ils ont réagi très bien. Ils ont beaucoup parlé au début, notamment un des prisonniers qui parlait beaucoup, qui dialoguait avec Adrien. Et là, Adrien... Mais c'était génial parce que ça marchait. Adrien continuait son texte. Il n'a jamais rajouté un mot. Et en même temps, c'était comme s'il y avait une espèce de dialogue qui s'était instauré entre lui et Thomas Chagrin. Et je ne sais pas, il ne perturbait pas. Ça continuait la représentation, il parlait. Et puis à un moment donné, plus ça avance, ça devient pesant. Et ça s'est terminé dans un silence complet. Mais il y a des phrases qui sont très étonnantes. Quand tu dis « vous êtes libre », quand tu parles au public et...
Vous êtes libre d'imaginer, vous êtes libre, en ce qui concerne l'imagination, vous êtes libre, du moins dans ce petit domaine, enfin je ne sais plus quelle est la phrase exacte, voilà. Mais oui, c'est vrai que ça parle de...
Ça porte.
Enfin, là, silence, c'est très... Et Améryville, on la travaille cette année en parallèle, puisque c'est la pièce que j'ai choisie pour travailler avec l'atelier des amateurs du Théâtre des 13 Vents, et on prépare un spectacle qui sera réservé, enfin voilà, pour les amateurs, par les amateurs, pour leurs amis, qui n'est pas dans la saison, mais on explore cette pièce, et c'est une pièce, pareil, enfin, incroyable, et il y a une matière de comme ça, très, très, très incroyable.
Thomas Chagrin, donc librement inspiré de rien, c'est le sous-titre. C'est donc au Théâtre des 13 Vents jusqu'au 9 février. C'est une petite jauge, il y a 100 places.
Il y a 100 places, et dans la petite salle que nous avions, qui a déjà été utilisée dans le passé, mais que petit à petit nous transformons vraiment en petite salle. Il y a déjà eu cette année la conférence de Christophe Pelé, il y a eu Camus Nobel Pinter, c'est la troisième proposition qui est programmée cette saison, et la saison prochaine on va continuer à utiliser cette salle de répétition que nous transformons en petite salle. Mais c'est très agréable.
C'est une très bonne idée.
C'est très chaleureux et c'est adapté à ce genre de proposition.
En tout cas, votre jeu est magistral, au sens que vous êtes déjà un maître, malgré votre jeune âge.
Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce spectacle, parce que ça a beau... On parle depuis tout à l'heure de désespoir, d'obsession, tout ça, mais il a beaucoup de...
D'humour aussi.
D'humour, ouais. De recul, d'autodérision, et c'est un hymne à la vie, ce spectacle.
Et je crois que c'est ça, le Louis Leno, et dans Améryville, c'est pareil, et dans Thomas Chagrin, même si le personnage est désespéré, je pense que l'objet de Will & Oates, c'est de célébrer la vie.
Oui, parce qu'à la fin, il dit...
Ça sera le mot de la fin, Radia, parce que...
Ce n'est pas merveilleux de vivre.
C'est pas formidable d'être en vie.
Voilà.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Thomas Chagrin, donc ce soir, c'est à 20h30, mardi à 19h, mercredi à 20h30 et jeudi à 19h. Voilà, un très bon spectacle à voir au 13
ans. Allez-y.
On va faire une petite pause avec la musique du film Arizona Dream, This is a Film, c'est Iggy Pop.
Fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute. Expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. The fish knows everything.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, c'est de 12h30 à 14h, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.